Prologue. J'arrive à Atlanta à la fin septembre. L'humidité étouffante qui commence tout juste à céder la place aux premiers signes de l'automne me donne l'impression d'être encore en été. J'ai 61 ans. Près d'un demi-siècle me sépare du gamin que j'étais en arrivant ici, à l'arrière de la Mercedes 450 bleu ciel de ma sœur Renata. Mais je sais encore me repérer. Même si de nombreux bâtiments ont été détruits et remplacés par d'autres, les rues n'ont pas changé. Et plus encore que la vue familière des façades de briques et des feux de circulation, c'est la saveur du lieu qui me revient, inchangé, tel un vieux souvenir sensoriel surgi de nulle part. Atlanta a un goût de beurre, salé avec une note sucrée, comme quand on l'a laissé sorti et qu'il a un peu ramolli. C'est fait exprès, pour qu'on le savoure. Ce goût caractéristique est omniprésent. On le perçoit dans la radio qui hurle par la vitre ouverte d'une voiture. On le décèle dans la voix chantante des femmes, dans leur accent traînant où flottent des notes de musique. On le sent dans la manière qu'ont ces lourds étés de tout ralentir, de tout rendre aussi collant que de la mélasse. Je loue un vélo et sillonne la ville pour voir quels souvenirs elle m'évoque. Et très vite, ça me revient. Voici le banc où je m'asseyais pour rouler un joint et observer des hommes sculpter un arbre frappé par la foudre afin d'en faire un totem pour le festival d'art du Parc Piémont. Cet été-là, j'y avais assisté pour la première fois, découvrant les stands où l'on vendait de l'artisanat, tableau vivant de la créativité bohème. Là-bas, il y a la boîte où je dansais toute la nuit, vêtue d'une robe taillée dans les rideaux en plastique doré de Renetta, au milieu des corps échauffés, exaltés par le son entraînant du disco. Plus loin, je distingue le service du Grady Memorial Hospital, où j'ai dit adieu à mon ami chéri qui se mourait du sida. Pendant ces derniers instants, j'avais réussi à ne pas craquer, serrant fort sa main. Mais une fois dans le couloir, je me suis effondré en sanglotant, sachant que je ne la reverrai plus jamais. Et au coin de cette rue, un soir de Noël, en sortant de mon numéro de go-go dancer, je me souviens être tombé sur un sac de jouets laissé là pour les bonnes œuvres. Son contenu éparpillé sur le trottoir, un âne en peluche borgne me fixait avec le bouton qui lui servait d'œil. Sans savoir pourquoi, j'ai ressenti un tel élan de tendresse que je l'ai ramassé pour le rapporter chez moi. Et voilà 40 ans que je dors avec. N'est-ce pas étrange? Il s'est écoulé de nombreuses années depuis lors, mais j'ai encore la sensation de cette douleur en moi. Je savais qu'elle était là avant même d'être assez sage pour la nommer et comprendre que je pouvais donner à cet enfant intérieur, avide de réconfort, tout ce dont il avait besoin. Et puis, il y a la pelouse du Parc Piémont, où mon ami Larry T. et moi, nous sommes allongés un matin au lever du soleil, encore étourdis par l'acide que nous avions pris dans la nuit. C'était l'année de la convergence harmonique, c'est-à-dire des rassemblements New Age qui ont eu lieu en août 87. Et je sentais dans l'air l'énergie du changement. Larry portait une chemise de bowling et ses pupilles étaient immenses. La balance représente les non-dits de la maison 12 en scorpion, a-t-il déclaré d'un ton solennel. Une fois que les effets de la drogue se sont dissipés, j'ai pris conscience que c'était du charabia. Mais ce charabia était sublime. Et je ne l'ai jamais oublié, peut-être parce que j'en aimais les consonances, la maison des non-dits. Ou peut-être était-ce à cause de la manière dont je me considérais moi, comme un détective de l'univers, fouillant la maison en quête d'indices, m'efforçant de comprendre ce que tout cela signifiait. Ou alors, c'est juste parce que Larry était mon ami. Des mois plus tard, lorsqu'il m'a annoncé qu'il partait s'installer à New York, j'ai compris qu'il était temps pour moi aussi de quitter Atlanta, bien que je n'ai jamais su si le moment de partir était vraiment venu ou si j'avais juste eu peur de me retrouver seul. Je ne suis pas venu à Atlanta uniquement pour me replonger dans le passé. Je suis là parce qu'il y a quelque chose dont j'ai besoin à l'endroit où je suis né. Pas à l'hôpital de San Diego où ma mère a accouché, mais dans un immeuble au sud-ouest de la ville. Un immeuble dans lequel je n'ai pas remis les pieds depuis plus de 30 ans. En arrivant dans ma voiture de location, je vois mon vieil ami James qui m'attend devant la porte du bâtiment. J'ai connu James à l'époque où cet endroit était l'appartement de sa mère. Il vivait dans le sous-sol qui nous servait de studio improvisé ou de boîte de nuit et où nous filmions des épisodes de The American Music Show, une émission de variété diffusée sur une chaîne en accès public. Aujourd'hui, James se déplace à l'aide d'un déambulateur en métal, mais son accueil est toujours aussi chaleureux. En bas, le décor est resté le même, avec juste un peu plus de poussière. Classeur bourré de papier, vieille télévision, tourne-disque, bibelot. J'attrape une carte postale où figure ma photo, et un souvenir surgit. Quand j'avais une vingtaine d'années, Je vendais ces cartes et j'en avais donné une à James, ici même. Il l'avait posée sur une étagère avec délicatesse, comme s'il s'agissait d'un trésor. Elle est abîmée par le temps ou par les insectes, les deux peut-être, mais elle n'a jamais été déplacée. Au fond des rayonnages, je trouve ce que je suis venu chercher. À l'aide d'un vieux t-shirt, j'essuie la poussière pour lire l'étiquette collée sur la première cassette. « The American Music Show, saison 5, épisode 6, 1982. » Enregistré sur des bandes VHS, il y a des heures et des heures d'images de l'émission que James et moi avons tournées dans ce sous-sol. En commençant à les retirer des étagères, je m'aperçois qu'elles sont entassées sur deux rangées et, en déplaçant une nouvelle pile, je découvre qu'il y en a encore d'autres derrière. Des dizaines, peut-être des centaines de cassettes pour chaque épisode réalisé sur une période de plusieurs années, toutes marquées par la date de diffusion. Ces bandes sont un véritable documentaire de la façon dont je suis devenu qui je suis. Une transformation que personne n'a vue depuis 40 ans et dont la seule trace est ici, dans cette cave.
« Tu as trouvé ?»
me crie James depuis le rez-de-chaussée. Je lui réponds par l'affirmative. Je transfère les cassettes dans des cartons que je remonte un par un dans l'escalier. Avant d'éteindre la lumière, je balaye une dernière fois la pièce du regard pour la graver dans ma mémoire. Je vais faire envoyer ces bandes à Los Angeles pour qu'elles soient numérisées. Il y a longtemps que j'aurais dû m'occuper de ça, je le sais. Mais je n'en avais pas ressenti le besoin jusqu'à aujourd'hui. La vie est une suite de saisons. Il y a celle où l'on se retrouve à conduire en pleine tempête de neige, où l'on ne peut qu'essayer de garder les yeux fixés sur la route devant nous pour rester en vie. Notre ego se met en travers du chemin de toutes les bonnes idées qui se présentent, nous empêchant d'y accéder. On fuit la douleur, on se colle des œillères et on reste concentré sur ce qui est juste devant nous. On oublie les choses qu'il faudrait voir en périphérie parce qu'on sait qu'en les acceptant, on serait obligé de remettre en question tout ce à quoi on s'accroche si fort. Mais il y a aussi les saisons où la boule à neige est secouée en tous sens. Tout bouge autour de nous et on reste sur place, les yeux levés pour tenter de deviner où vont atterrir les fragments du monde. C'est lorsque la tempête se calme enfin qu'on se retrouve dans la maison des non-dits. On observe les schémas qui reviennent sans cesse. On les laisse nous dévoiler quelque chose de différent, même s'il s'agit précisément de ce qu'on a fui toute notre vie. On se jette dans le feu, on s'élance au cœur de la souffrance, certains ou certaines que le seul moyen d'en sortir, c'est de traverser les flammes. De retour à l'hôtel, je contemple par la fenêtre un chantier de démolition, un ancien gratte-ciel désormais réduit à un tas de gravats. Je me souviens de l'époque où il a été construit, il y a 40 ans. À présent, il n'existe plus. Bientôt, on bâtira autre chose à sa place. C'est dans l'ordre des choses. Atlanta m'a enseigné cette leçon, et la vie me la rappelle sans cesse. Le passé doit être détruit pour offrir un espace à l'avenir. Chapitre 1. Adieu. Je monte sur scène. Je quitte la maison une fois, 10 fois, 100 fois. Je m'assois devant la porte pour attendre mon père, sachant qu'il ne viendra jamais. Et puis, je le laisse partir. Chaque fois, je lui dis adieu. D'abord, un souvenir. Dans mon esprit, c'est un instantané aussi clair qu'une photo. J'avais 5 ans et j'étais à San Diego, dans le jardin de la maison où j'ai grandi, avec ma grande sœur Renetta. Celle-ci a étalé une couverture par terre, puis a attrapé un sac en papier marron dont elle a sorti des cookies au beurre de cacahuètes fait maison, mes préférés. Je portais une chemise à rayures bleues et blanches, et un pantalon en coton vert. Assis et assise sur la couverture, nous avons mangé les cookies. Je dégustais les miens lentement, savourant chaque bouchée, caressant du bout de mon pouce les rainures imprimées par la fourchette sur le dessus du biscuit. Le soleil brillait, mais en Californie du Sud, le soleil brille toujours. Les journées de grisaille sont celles dont on se souvient le plus. « C'est un pique-nique », a annoncé Renetta. « Un pique-nique ? » ai-je répété. Elle a hoché la tête et, à cet instant, j'ai senti qu'elle me confiait quelque chose d'important, même si je n'étais pas encore assez grand pour en saisir véritablement le sens. Pourtant, peu à peu, j'allais comprendre. En nommant ce moment, elle le rendait plus solennel qu'il ne l'était. Nous n'étions pas simplement en train de manger des cookies assis et assises sur une couverture. La cérémonie, la mise en scène, c'est ce qui consacrait cet événement et le rendait extraordinaire, créant une sorte de magie.